Le journal de Raphaël Chalvera.
Bonjour, la planète football a les yeux braqués sur Rome. La ville éternelle accueille ce soir le match d'ouverture de l'Euro entre la Turquie et l'Italie. Prise de température auprès des supporters. Fabio Monti de retour à la direction du centre de loisirs des Franches-Montagnes. Le tramelan a été réintégré par le conseil d'administration qui venait de le licencier. Le soutien rencontré l'a convaincu de revenir. Il ne faut pas retirer les droits politiques aux personnes qui souffrent de handicap physique et mental. La sénatrice jurassienne Elisabeth Baumschneider mène le combat sous la coupole fédérale. Le Conseil des États et le gouvernement ouvrent la discussion. Cette fois, ça y est, l'été semble s'installer dans le Jura. Le soleil sera généreux ce week-end, malgré le passage de quelques nuages pouvant lâcher éventuellement quelques gouttes sur les reliefs. Le thermomètre affichera jusqu'à 26 degrés demain et dimanche. C'est le grand jour pour les amateurs de football. L'Euro 2020 démarre ce soir avec un an de retard, pandémie oblige. La compétition se déroulera pendant un mois dans 11 villes européennes de 11 pays différents. Le coup d'envoi sera donné à 21h à Rome avec le premier match du groupe A, celui de la Suisse. L'Italie affronte la Turquie. Alexandre Rosset a pris la température auprès des supporters des deux nations dans le Jura.
Les fans de foot l'attendent impatiemment depuis l'an dernier et le report de la compétition à cause du Covid. En ce 11 juin, l'attente va finalement prendre fin et l'Euro 2020 commence avec une affiche qui ne laisse pas indifférent dans la région. Les Italiens font leur retour sur la scène internationale 3 ans après avoir manqué la Coupe du Monde 2018 en Russie. Au restaurant de la FAPS à Delémont, les discussions tournaient évidemment autour du ballon rond ce matin à l'heure du café. Pour Luigi, la squadra Azzurra part du bon pied dans cet Euro, elle qui reste sur 27 rencontre sans défaite.
Je vois une belle équipe jeune, dynamique, constructive et j'espère qu'elle va donner le meilleur d'elle-même et que les adversaires aussi, que ce sera un super beau match.
Ça vous l'attendez justement la Turquie, hein, on sait qu'ils se sont pas mal débrouillés ces derniers.
Oui, c'est aussi une très belle équipe, jeune et je pense qu'ils vont faire le maximum pour nous battre, mais j'espère que ça ira bien pour nous, mais que le meilleur gagne toujours.
Luigi qui reste donc fair play, tout comme son camarade de tablé, Léo.
On va espérer qu'il fasse un bon jeu et puis que le meilleur gagne.
L'Italie est particulièrement en forme ces temps, c'est ça ?
Oui, c'est une belle équipe, ils ont pas mal évolué ces derniers mois. Donc on est confiant.
Contre la Turquie, comment vous le sentez ? C'est un adversaire que vous craignez en particulier ?
Oui, c'est une belle équipe aussi, la Turquie. Hein. C'est presque un match, un 2-1 pour l'Italie.
Léo mise donc sur une victoire de l'Italie, mais la Turquie avait créé la surprise lors des qualifications en terminant deuxième de son groupe derrière l'équipe de France. Les Turcs avaient notamment battu les Bleus à domicile avant d'obtenir le match nul au Stade de France. Les ressortissants turcs de la région vont donc également suivre la rencontre face à l'Italie avec attention. Nous avons rencontré Batiar au restaurant Center à Delémont. Pour lui, la Turquie a aussi des atouts de son côté.
L'équipe turque est assez jeune, donc c'est une équipe assez dynamique. Je pense qu'ils peuvent créer la surprise ce soir contre l'Italie.
On sait que l'Italie, voilà, c'est quand même une équipe très forte. Vous êtes quand même confiant.
Alors, pour moi, c'est deux pays qui se ressemblent un petit peu au niveau caractère. C'est des gens du Méditerranée. Mais c'est vrai que quand je regarde maintenant de loin, je pense que l'équipe turque pourrait, à un moment donné, pourquoi pas, créer cette surprise et vaincre l'Italie.
Deux équipes plutôt jeunes et dynamiques vont donc s'affronter ce soir pour tenter de faire vibrer leurs supporters jusque dans le Jura.
Et on revient sur la compétition dans quelques minutes dans le journal de l'Euro. Le centre de loisirs des Franches-Montagnes a retrouvé son nouvel ancien directeur. Fabio Monti a repris le travail ce matin à la tête de l'institution située à Seignelégier. Le directeur a été réintégré par le conseil d'administration 10 jours après avoir été licencié par ce même conseil d'administration. Le tramelan a ainsi connu des montagnes russes émotionnelles depuis 2 semaines avec l'annonce des fortes tensions qui secouent le CLFM. Fabio Monti était l'invité de la matinale aujourd'hui en direct sur RFJ. Il explique ce qu'il a décidé à accepter de reprendre ses fonctions.
Je dirais que c'est le soutien des employés que j'ai reçu lors de ces dernières semaines, également le soutien de la population ou des différents politiques que j'ai eu au téléphone. Donc c'est un peu tout ça qui m'a motivé à revenir et à reprendre ma mission.
Pas de rancœur ?
Non, parce que je pense que voilà, il faut savoir capitaliser sur les situations difficiles. Il faut pouvoir envisager la suite de manière sereine. Je pense que ce lieu a besoin de consensus, a besoin de compromis dans sa nature même. Hein, si on regarde, il y a 13 communes, il y a 13 réalités. Les actionnaires, c'est des actionnaires privés, des actionnaires publics. Donc je pense qu'il faut trouver les compromis et le consensus nécessaires pour pouvoir établir une vision sereine du CLFM. Donc je pense que ça passe par le dialogue et c'est ce que nous avons fait avec le conseil d'administration mercredi soir.
Et vous tournez la page avec le conseil d'administration justement, les bisbis, c'est du passé?
Je l'espère, oui. En tout cas, c'est la volonté commune qu'on a eue mercredi soir. C'est d'aborder la situation avec dialogue, avec hauteur et puis on va se porter vers l'avant maintenant.
Les problèmes ne semblent pas résolus pour autant au centre de loisirs. La réintégration de Fabio Monti a provoqué la démission du président du conseil d'administration, Georges Schuller. Le CA ne compte ainsi plus que 4 membres. Par ailleurs, Fabio Monti ne bénéficie pas du soutien de tous les employés du CL. Il précise comment il aborde cette situation.
Il faudra écouter, il faudra évoquer les choses, parce qu'il y a beaucoup d'émotions. C'est une situation qui est triste avant tout pour les employés. Maintenant, en ce qui me concerne, ça fait partie de ce type de position. Donc, on va pas dire qu'on y est préparé, mais ça fait partie des responsabilités d'un directeur d'assumer ces choses. Et puis, on va y aller petit à petit, main dans la main, pour co-construire la suite.
Ça fait peut-être aussi partie de la vie d'un directeur, hein, que tous les employés ne vous soutiennent pas, ne semblent pas vous soutenir. En tout cas, certains ont même témoigné dans la presse. Vous attendez à des démissions ou bien vous allez essayer de réunir tout le monde?
C'est évident que je vais essayer de réunir tout le monde. Ça fait partie de ma fonction. Je vais bien évidemment entendre tout le monde, que ce soit les employés qui sont encore sur site et ceux qui sont encore en arrêt maladie. Donc, dès le moment où c'est qu'ils se seront soignés et qu'ils pourront revenir sur le lieu, c'est bien évidemment qu'il faudra engager des conversations avec eux pour comprendre comment envisager la suite.
Fabio Monti était au téléphone de Léandre Berret. Entretien complet sur rfj.ch. A noter encore que 3 plaintes déposées par Fabio Monti contre Georges Schuller, l'ancien directeur André Vimin et un employé du CLFM restent pendantes. Le Tramelot nous a toutefois indiqué qu'il s'était engagé à tenter une conciliation avec une des personnes concernées. Le FC Lunier d'Anfreux dans le viseur des autorités jurassiennes. Le club de football a enfreint les règles anti-coronavirus le week-end dernier lors d'un match amical face à Cours. C'est un communiqué du canton qui l'affirme aujourd'hui. La société Ajoulotte n'a pas procédé à la collecte de données auprès des consommateurs de la buvette lors de cette rencontre. 2 cas positifs au Covid-19 ont été détectés, mais il n'a pas été possible de réaliser le traçage des contacts. Les autorités cantonales appellent les personnes présentes à ce match à se faire dépister et envisage des sanctions à l'encontre du FC Lunier d'Anfreux. Vous retrouvez les règles à respecter lors des compétitions de sport amateur en extérieur sur rfj.ch. Les tests de dépistage du Covid-19 continuent dans certaines écoles du canton du Jura. Les élèves et enseignants de l'école de Fontenay-Villars-Bressaucourt ont été soumis à des tests salivaires cette semaine. Des cas positifs avaient été découverts dernièrement parmi les élèves. Si le dépistage se poursuit à l'approche des vacances d'été, c'est parce que des camps sont organisés pour certaines classes. Il est désormais obligatoire de tester les jeunes avant et après ce genre de sortie scolaire pour éviter des foyers de contamination. Pour l'adjointe au chef du service de la santé publique, Sophie Chevret-Chalère, ces dépistages massifs sont essentiels.
On est dans une situation où on a eu en 3 mois autant de cas dans les écoles scolaires que ce qu'on avait eu en une année précédemment. Donc entre le mois de mars 2020 et mars 2021, on avait eu environ 150 cas positifs à l'école obligatoire. Et on en a 160 entre mars et mai 2021. Donc on est vraiment dans une situation où le virus circule dans les écoles. C'est important pour nous d'éviter des grosses flambées, d'éviter des situations de fermeture, de modules, etc. Donc c'est pour ça que ces tests répétitifs permettent d'identifier en amont des cas positifs et éviter que le virus se propage. Donc c'est vrai qu'on a mis en place ces dépistages quand il y a des cas qui étaient identifiés, donc forcément on est dans un terrain plus favorable à en trouver. Au bilan qu'on tire aujourd'hui, on a plus de 11 000 élèves et ou enseignants qui ont fait des tests salivaires dans le canton du Jura, ce qui représente quand même une part importante, dont certains en ont fait 2, 3, voire même plus. C'est vraiment un outil important pour la gestion de la pandémie parce que c'est des populations qui n'ont pas accès à la vaccination. Donc il faut vraiment qu'on s'assure qu'il n'y ait pas une transmission du virus trop importante dans ces populations parce que même si souvent ils ont des symptômes légers, voire pas du tout, on a quand même connaissance de situations plus graves.
Et des réunions seront menées ces prochaines semaines entre le service de la santé, le service de l'enseignement et l'état-major cantonal de conduite. Elles devront déterminer quelle stratégie de dépistage sera mise en place à la rentrée d'août prochain. L'association La Cantine peut entreposer son matériel. La ville de Delémont lui met à disposition un lieu de stockage à la route de Port-en-Truy. La cantine est en train de vider les locaux qu'elle occupait jusqu'à la fin de l'année passée. Elle ne peut toutefois pas reprendre ses activités socioculturelles pour l'heure, puisqu'aucune proposition de local faite par les services communaux n'a reçu son assentiment. Selon la ville de Delémont, la procédure de recherche continue avec la volonté de trouver un lieu adapté pour la cantine. Le gymnase pourrait durer 4 ans partout en Suisse. Une volonté d'harmonisation discutée en ce moment par la conférence des directeurs de l'instruction publique. Cela signifierait que le cursus passerait de 3 à 4 ans dans le canton du Jura. Mais ce n'est pas pour tout de suite. La décision finale tombera d'ici 2023 selon la RTS et la mise en œuvre à l'horizon 2033-2035. 15 000 personnes en Suisse sont privées de leurs droits politiques parce qu'elles souffrent de handicaps physiques ou mentaux et sont placées sous curatelle. En votation populaire et à une large majorité, le canton de Genève a décidé en novembre dernier de renoncer à retirer les droits politiques de ces personnes. Des projets sont aussi en cours dans les cantons de Neuchâtel, Vaud et du Valais. La Confédération pourrait emboîter le pas. Le Conseil des États et le Conseil fédéral ont validé une intervention des socialistes Marina Carobbio et Elisabeth Baumschneider. Les explications de la sénatrice jurassienne.
C'est un dispositif qui est sans nuance. Si vous êtes au bénéfice d'une mesure de protection, à savoir une curatelle d'ordre général, eh ben on vous retire vos droits politiques. Et on a vu le débat à Genève, on a vu que des personnes souhaitaient s'engager, souhaitaient comprendre les enjeux et souhaitaient voter et lire. Et dans ce cadre-là, je suis vraiment très contente que le Conseil fédéral entre en matière sur le postulat qu'on a travaillé en commun avec Marina Carobbio et soit d'accord de faire un état des lieux de ce qui va se passer dans les cantons, d'observer ce qui se passe en Autriche, en Allemagne, en Italie. Et cas échéant, de voir comment on pourra ouvrir ce droit à des personnes qui n'ont pas un problème de discernement sur le long terme. C'est aussi une fausse crainte que de penser que l'entourage des personnes avec handicap psychique profiterait de s'exprimer à leur place. Il faut vraiment faire attention que ce droit strictement personnel ne soit pas galvaudé, mais il ne faut non plus pas avoir des craintes démesurées.
Voter un principe, c'est bien, l'appliquer, c'est mieux et ça peut prendre du temps. On retrouve Elisabeth Baumschneider.
Il faudra voir comment ça se met en place à Genève. Et puis j'ose espérer que ce sera avant une dizaine d'années. Il y aura maintenant le rapport qui va quand même prendre une bonne année, 2 ans. Ensuite, une procédure avec des consultations. Donc on peut imaginer, si tout va très très bien et très vite, que dans 5 ans, au niveau fédéral, on pourrait avoir des signes très très positifs pour restaurer ce droit. 5 ans, ça me paraît beaucoup trop long pour les personnes concernées, mais ça me paraît raisonnable au niveau d'un postulat au niveau parlementaire.
L'urgence climatique ne permet pas de bloquer une route. Les 14 activistes d'Extinction Rébellion qui ont entravé le 5 mars 2020 pendant 1h15 l'avenue du 1er mars à Neuchâtel ont été condamnés ce matin par le tribunal de police. Le juge a relevé que les activistes n'ont pas demandé d'autorisation pour manifester sur le domaine public et qu'ils ont violé la loi sur la circulation routière. Il les condamne à une amende de 200 francs chacun et au paiement des frais de la cause. Le tribunal a en revanche répété à plusieurs reprise qu'il ne remettait pas en cause le principe d'urgence climatique, mais qu'il devait appliquer la loi, ce que déplore Yannick Ferreri, membre d'Extinction Rébellion.
Je suis déçu parce qu'il n'y a pas eu de prise de conscience en fait de l'état de nécessité. Ce qu'on fait est légitime, on sait pourquoi on le fait, on comprend les conséquences de nos actes au niveau judiciaire, mais on sait aussi qu'on a le droit de le faire étant donné que notre peuple est en train de mourir à cause du dérèglement climatique et on le laisse comme ça. Et en fait, nous, on ne peut pas le laisser comme ça.
Vous avez le droit de le faire, mais pas vis-à-vis de la justice.
Alors vis-à-vis de la justice, non, exactement. C'est toujours le principe de licéité ou pas d'une action. Là, elle a été rendue illicite, en tout cas selon le jugement du juge. Mais pour nous, elle est quand même licite. Elle reste licite dans notre tête parce qu'on est là pour défendre le vivant et pas pour simplement bloquer la route pour embêter les gens.
Le juge a rappelé également que ne pas sanctionner le comportement des militants pourrait ouvrir la voie à des infractions plus graves, un avis partagé par le procureur Marc Rémy.
L'infraction n'est pas l'infraction la plus grave qu'on puisse connaître. D'ailleurs, le ministère public a été relativement clément en ne visant que des amendes qui ne figureront pas au casier judiciaire, à l'exclusion d'autres délits qu'on aurait pu imaginer peut-être. Donc l'infraction n'est pas des plus graves, mais il y a une question de principe encore une fois. Et tolérer ce genre d'action ouvre la porte à d'autres actions illicites qui peuvent être commises dans l'espace public au nom de n'importe quel motif.
Des propos recueillis par Sarah Massy. Par ailleurs, le tribunal fédéral rejette le recours des 12 activistes qui avaient occupé les locaux lausannois de Crédit Suisse. L'information est tombée aujourd'hui. La crise climatique ne leur permettait pas d'invoquer un état de nécessité licite.
Vous écoutez RFJ, il est 12h30.
Sport. Le HC Ajoie complète son offensive. Il s'est attaché les services de Dario Rohrbach pour le prochain championnat de National League. Le club jurassien de hockey sur glace le dévoile aujourd'hui. L'ailier de 22 ans a résilié son contrat avec Ambri Piotta pour rejoindre la troupe dirigée par Gary Sheehan. L'entraîneur québécois pourra également compter sur Wally Hubert l'hiver prochain. Comme nous vous le révélions il y a un mois, l'attaquant a prolongé son contrat d'un an dans le Jura.
Le journal de l'euro, sur le terrain de la mobilité responsable avec la nouvelle Volkswagen ID.4 100% électrique à découvrir au garage Maurice Montavon à Develier.
Volkswagen. C'est enfin le grand jour pour l'Euro 2020. Reporté l'an dernier en raison de la pandémie de Covid-19, le championnat d'Europe de football démarre ce soir avec Turquie-Italie à l'affiche pour le match d'ouverture à 21h à Rome. Les deux équipes figurent dans le groupe de la Suisse qui entamera son tournoi demain face au Pays de Galles. Le spectre du coronavirus plane sur la compétition. Les sélections doivent rester dans leur bulle, se déplaçant uniquement entre les hôtels et les stades. Pas de quoi perturber les joueurs, selon l'ancien défenseur de la Nati, Johan Djourou.
Il y a une saison complète et un peu plus qui a été jouée avec cette pandémie. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Les gars savent qu'ils vont être isolés, qu'ils vont être entre eux, que le groupe va grandir, va devoir s'occuper ensemble, va devoir s'amuser ensemble. Donc, c'est aussi comme ça, des fois, qu'on gagne les tournois, et même souvent. C'est les liens qui vont être créés, ce rapprochement-là qui est obligé, parce qu'il n'y aura pas de visite de famille ou de l'extérieur. Mais je pense que ça va être aussi une force, parce que nous sommes dans un euro. Et celui qui veut gagner l'euro, il faut qu'il soit le plus fort ensemble, sur le long terme. Donc, le groupe va grandir, et j'espère que ça ne va pas poser problème, que cette bulle sanitaire puisse peser moralement sur les troupes, mais je ne pense pas que ce soit un problème, non.
L'attaquant de l'équipe de Suisse, Mario Gavranovic, partage l'avis de son ancien coéquipier.
Toute la saison, il a montré beaucoup dans les plus grands championnats, beaucoup de nouveautés. Ça veut dire que toutes les équipes ils peuvent faire des bonnes choses. C'est vrai que c'est un championnat un peu différent de les passés. Il peut faire beaucoup d'attention avec cette virus, mais quand même, nous, on veut se concentrer sur le terrain et pas sur les autres choses qu'on ne peut pas gérer.
Cet euro aura tout de même un goût bien particulier. Les sélections sont appelées à voyager à travers tout le continent. La compétition se tient dans 11 villes de 11 pays différents. Tous les stades accueilleront du public, la jauge variant d'un lieu à l'autre. L'ancien entraîneur assistant de la Suisse, Michel Pont.
J'ai vraiment l'impression que ça va être très, très ouvert. Et puis on va vivre vraiment, les joueurs sont heureux, sont conscients que ça redémarre, vont être complètement sous le joug d'avoir de nouveau des ambiances dans le stade, les supporters qui sont là, les supporters qui vont leur donner de la force, c'est une équipe nationale, c'est des supporters de tout un pays. Je pense que les joueurs et les spectateurs vont vivre quelque chose d'encore plus intense de par l'exceptionnalité du contexte.
Michel Pont, que vous retrouverez en direct dans le Café de l'Euro entre 13h et 13h30. Le Café de l'Euro, c'est l'émission 100% foot de votre radio durant ce tournoi. Info, analyse, humour, musique de la planète football ou encore regard d'un expert. Ne manquez rien de la compétition en dégustant votre Café de l'Euro du lundi au vendredi sur RFJ entre 13h et 13h30.
Le journal de l'Euro, sur le terrain de la mobilité responsable avec la nouvelle Volkswagen ID.4 100% électrique à découvrir au garage Maurice Montavon à Develier. Volkswagen.
Le soleil continuera de briller toute la journée malgré l'arrivée au fil des heures de cumulus au-dessus des reliefs, pouvant localement conduire à une averse en fin d'après-midi, mais la soirée restera sèche et calme. Le mercure grimpe aujourd'hui jusqu'à 22 degrés aux Franches-Montagnes et 26 en plaine. Et demain, le soleil sera globalement généreux, mais avec des formations nuageuses par moments assez nombreuses l'après-midi, avec quelques gouttes pas totalement exclues sur les reliefs. Il fera au meilleur de la journée entre 22 et 26 degrés. Et si on passe à dimanche, il y aura quelques nuages résiduels le long des reliefs en
début de matinée, mais rapidement dissipé. Sinon, le temps sera ensoleillé avec une bise faible à modérée et les températures max attendues seront de 22 degrés aux Franches-Montagnes et 26 en pleine.